faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Qu'est-ce qui se passe ?
Cessez d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Say what?
Sur CFM.
Salut.
Salut
bonjour
à tous.
Bonjour.
Bonjour, à quelques petits problèmes techniques pour lancer l'émission. Bonjour à tous, donc c'est les Roquets Rouges, 107.9 CFM. Comme vous l'entendez, ce n'est pas Guillaume qui vous accueille avec sa voix douce et suave, c'est moi, Benjamin, et étant donné que Guillaume est retenu ailleurs, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Aujourd'hui, autour de la table, plein de roquets. Alors je vous laisse dire bonjour, messieurs, dames.
Salut, c'est Romain.
Romain qui est à l'heure.
Amanda.
Salut Katia.
Et nous avons aujourd'hui un invité, il s'agit d'Hugo Robert. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Alors, que toi, je te tutoie, on se tutoie, donc je vais pas faire semblant. On va parler en gros médias et politique, on va dire ça comme ça.
Bah ouais, c'est la vie, c'est la démocratie.
Ouais. Pour commencer, nous allons donc écouter une sorte d'invité surprise, encore une fois, qui va nous faire l'édito.
Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour Guillaume, tu n'es pas là, moi je suis là. Mais je suis déçu, Guillaume, je viens au Roquet Rouge et tu n'es pas là. Je pense que Guillaume est amoureux de moi, oui. Il tente en vain de trouver des occasions pour me croiser, pour me voir. Il essaye d'organiser des apéros militants où il convie toute la gauche, enfin toute la gauche, ce qu'il reste. Il se précipite dès qu'il y a une manif, une fois pour l'état d'urgence, une fois pour la COP21 ou je ne sais pour quel autre motif. Il essaye, avec des motifs futiles, de m'attirer. Mais il est tellement loin de mes préoccupations de néo-rural. Non, il n'arrive pas à me croiser, le petit Guillaume. Je lui manque. Il va même jusqu'à simuler une paternité, espérant ainsi m'attirer en jouant sur la corde affective et profiter d'occasion pour expliquer le surpoids de sa copine.
Salut.
Il est pour rien, c'est dégueulasse.
Je reviens pour ça.
Donc je suis là, Guitou, d'amour. Je suis là, mon petit Guigui. Mais tu rates ce rendez-vous. J'avais demandé à Benjamin de me prêter ses sous-vêtements en dentelle. Romain m'avait épilé. Amanda m'avait percé tous les points noirs que j'ai sur mon visage. Et Katia avait tenté de me faire l'arrêt sur le côté.
Alors,
je suis là, Guillaume. Je t'écoute sur cfmradio.fr quand je roule sur la RN 88 pour entrer dans ma campagne véronaise. Alors, je t'embrasse, Guigui. Reste comme tu es. Enfin, c'est une formule. Essaye d'évoluer un petit peu. Allez, je t'aime. Plein de bonheur. Bisous.
Bah, merci, vous aurez sans doute reconnu cher auditeur fidèle, Grégory.
Bonjour. Greg. Voilà, il est pas là, alors je viens.
Voilà, ouais. C'est ça, t'attendais.
Parce que la dernière fois que je suis venu, il m'a gueulé, alors Guillaume, voilà. Donc je profite qu'il soit pas là, voilà. Je l'embrasse.
Ouais, on lui fait tous un bisou, ainsi qu'à Miss Roquette, évidemment. On va tout de suite faire une petite pause pour se remettre de cette émotion surprise, boire un petit verre éventuellement. Ching.
C'est parfait.
Voilà, on va écouter un petit peu de musique. C'est Amanda qui a choisi le...
La programmation musicale de la soirée. Donc là, on va écouter Les Négresses Vertes. Le titre de chanson, c'est Léla.
Bonheur sombre, voile nos yeux. Corpo
moi, président de la République, je vais être très
très. Bah, disons, on peut le dire.
Ladies and gentlemen, we got it.
Je croirais chez les bolcheviks.
Le micro est ouvert.
Ah, on est de retour.
Je suis là, quand
heureusement
même.
Que Greg est voilà. parmi nous. Donc, c'était donc les négresses vertes. Donc, nous allons enchaîner donc avec notre invité Hugues Robert. Bonjour Hugues.
Bonjour.
Donc, on t'a invité, on l'a dit un peu au début, pour parler démocratie. T'avais dit donc en gros de médias et de politique.
Absolument.
Voilà. Rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu sur la place ruthénoise?
Bah, disons que...
C'est le mec qui a fait l'apéro Facebook, c'est ça?
C'est ça c'est aussi, ça, ouais. J'ai fait l'apéro Facebook
2011,
aussi.
En 2010
ouais. ouais. Avril 2010. Voilà. Avec mon compère Olivier Montbazé d'Aligorchi.
Voilà, qu'on a reçu déjà quelques fois ici.
Voilà, et puis on est,
droite, alors,
on est mis en examen là récemment. Pour la prochaine fois, on va faire notre actualité aussi, puisqu'on est mis en examen tous les deux pour Aligorchi.
Voilà, parce que donc tu... en gros, bon, bah,
moi, je suis journaliste à la base.
C'est ton métier.
Voilà, c'est mon métier de base, mais j'étais aussi patron de presse, puisque j'étais patron de presse, j'étais aussi directeur commercial aux éditions Milan, où j'ai créé Picotti, un magazine pour petit dès 9 mois, et puis Alpes Magazine, et puis après j'étais en Aveyron, j'ai créé Aveyron Magazine, Lozère Magazine, Cantal Magazine, Viaduc Magazine, Destination Grand Sud, Femmes d'ici, voilà.
Donc un CV qu'on a rarement vu au Hockey Rouge.
Et j'ai participé à la création, et j'ai créé le Ruthénois, je me suis fait virer.
Voilà.
J'ai créé le Ruthénois.
On va pas rentrer dans les détails, mais il y a eu un conflit en justice que tu as gagné, on va dire ça comme ça.
Absolument. Voilà. J'ai deux conflits. Ouais. Ouais. Un parce que c'était sympa, un parce que j'avais dit je ne parle plus aux cons, ça pourrait les instruire. Ouais. Et donc, il paraît que j'avais diffamé ce monsieur que j'ai traité plus tard de salaud, mais c'est pas grave, j'ai été quand même blanchi.
Ouais. Et une autre fois pour une histoire de prud'homme.
Voilà, une histoire de prud'homme. Là, j'ai un peu gagné d'argent, pas beaucoup, mais.
Ouais. Mais alors, décidément, là, en l'occurrence, t'as gagné, donc t'avais bien raison d'y aller, mais tu fréquentes pas mal les tribunaux parce que tu es aussi, donc tu viens de le dire, mis en examen, c'est ça, hein, pour une histoire...
Diffamation, injure publique.
Ouais, donc... Ça, c'est la classe, moi, ça...
Ouais. Moi, j'ai jamais réussi, en 6 ans de métier, à être...
Ah, mais j'étais directeur de publication, donc j'avais à peu près une quinzaine de journalistes, et je n'ai jamais été traîné devant les tribunaux. Il n'y a que à Rodez, je sais pas, il y a une espèce d'odeur, de goût, de mauvais goût, qui fait qu'à Rodez, ça pleut.
Alors, donc pour expliquer, donc c'est pour un papier...
Que
tu n'as pas écrit, paru dans Aligorchi. Donc Aligorchi qu'on connaît, un blog satirique d'information.
C'était totalement mon cœur, c'était complètement mon cœur, mais derrière, il y a toujours des choses. Voilà. C'est-à-dire qu'on dit les choses sans les dire, tout en les disant.
Ou souvent, il vaut mieux être un peu informé pour comprendre, mais fois, on peut réussir à percevoir quelques
éléments. C'est plutôt pour le microcosme politico qui sait un petit peu.
Et donc ça a bien marché, parce que le microcosme du côté de la mairie, en l'occurrence, a dû le lire cet article, parce que Tessèdre a jugé bon d'attaquer.
Voilà, mais donc, il n'a pas attaqué. En général, il attaque que sur des articles secondaires.
Ouais.
Et puis, la personne qui vise, c'est Hugues Robert, d'ailleurs, le dernier procès contre le Petit Journal.
On va y arriver.
C'était rigolo parce que...
Excusez-moi, c'est Christelle Tessèdre individu ou monsieur le maire de Rodez qui te poursuit?
C'est très compliqué. Parce que pour le Petit Journal, c'est le maire, mais pour on peut pas tout dire parce qu'on va le coincer. Mais autrement, contre Aligorchi, c'est l'individu.
D'accord.
Ouais, parce que donc il y a deux affaires qui te concernent plus ou moins directement et qui concernent le maire de Rodez. Donc celle avec Aligorchi, celle avec le Petit Journal de l'Aveyron. Ouais. Là, pareil, c'est pas un papier que t'as écrit.
Mais c'était moi qui étais visé et j'étais la cible. D'ailleurs, l'avocat a bien montré parce qu'il a présenté ma photo et un article de ma photo, mais il visait un autre article et il a écrit et dit dans la procédure que c'était moi qui visais. C'est un petit peu la pauvre Myriam Laure qui a été la lampiste, mais je crois que c'est une logique parce que derrière il y avait Sancy, derrière il y avait le directeur de publication, mais on préfère toujours aller contre, d'une part, ceux qui sont pas directement concernés, puis une femme, c'est facile.
L'affaire en deux mots, là, sur le Petit Journal, c'est une information qui sort dans le Petit Journal.
C'est un article.
Pendant les élections.
Oui.
Municipal de
2014. Le maire attaque.
C'est des propos de Yves Sancy autour du multiplex. Un ticket, ça s'appelait un ticket gagnant pour le multiplex.
Reprochant d'avoir donné le terrain à Cap Cinéma. Et signé par stagiaire, non,
voilà, c'est
pas ça.
Voilà, c'est ça, exactement.
Et voilà, et Myriam Laure qui était sur la liste de Monsieur Sassi.
Voilà, c'est ça.
C'est
tout à fait
c'est
ça.
Le résumé à peu près.
Ouais, ouais.
Donc là, l'audience première instance a eu lieu fin janvier. Ça
oui.
s'est plutôt bien passé pour les accusés, enfin on ne dit pas accusés en l'occurrence là,
pour les prévenus.
Pour
ouais.
les prévenus.
Ouais. Oui, oui, je pense que ça s'est pas trop mal passé. Ça a été plus, moi, j'ai ressenti que c'était plus le procès de Christian Tessette que le procès de Myriam Laure, hein, puisque c'était elle qui était prévenue. Et bon, de toute façon, il faut attendre. Hein, c'est le 24 janvier.
Christian Tessette était présent.
Non, évidemment, évidemment. Il y avait même pas le directeur de publication du petit journal. Donc c'est là où on s'aperçoit qu'à un moment donné, bon, ça suffit quoi.
Donc là, l'audience a eu lieu le fin janvier. Le délibéré, c'est pour quand ?
C'est le 24 février.
Ok. Et donc pour ce qui concerne l'affaire avec Ali Gorchi, donc là, c'est
on ne sait pas quand est-ce qu'on va passer. Non, on ne sait pas encore, okay. Mais ça va pas tarder, je pense.
Ok. Donc, on l'a dit, tu as travaillé, écrit dans le petit journal de l'Aveyron.
Oui.
Ce n'est plus le cas.
Non, je crois que c'est fini parce que, de toute façon, à partir du moment où je n'ai pas ma liberté, moi, c'est, de toute façon, j'étais rayé. J'étais rayé parce que je disais des choses qu'il fallait pas dire.
D'accord.
C'est tout. Donc je préfère.
C'est la classe de se faire virer, de plus travailler des journaux.
Il a un rêve.
De se faire virer des journaux de droite, c'est top, quoi.
Mais là aussi, tu vois.
Alors est-ce que le petit journal était un journal de droite ?
Non. Moi, j'avais posé la même question.
Moi, je ne vais pas vous dire que c'est un journal de droite, c'est un journal presque d'extrême droite, même.
Merci, bien amené.
Donc là-dessus.
Ouais, parce que rapidement.
J'avais fait les papiers.
On en avait parlé. Mais la jeunesse du petit journal, tu l'expliques dans le livre que tu viens de sortir de ta pochette. Comment il s'appelle ? Presse Business.
Business, ouais.
C'est en gros c'est Monsieur Paga du Tarn-et-Garonne, c'est ça qui crée un hebdomadaire pour concurrencer la Dépêche, voilà. Qui juge trop pas.
Bah moi je dis c'est la franc-maçonnerie de droite contre la franc-maçonnerie de gauche. Donc c'est clair et c'est la droite et l'extrême droite puisque derrière il y a même la France-Afrique. Je le dis dans mon bouquin, il y a la France-Afrique qui est derrière Paga, etc. Mais moi là aussi, quand je suis allé voir Paga, je lui ai dit écoutez, de toute façon moi je suis libre, j'écrirai ce que je veux, vous ne toucherez pas une ligne, et ça fait partie du job.
Et ça a marché un temps.
Et ça a marché un temps, voilà.
Mais là,
je fais la comparaison, ça m'amuse, je fais la comparaison avec Podemos, qui quand ils se sont créés, à un moment donné, ils étaient éliminés par le parti de droite et par le PSOE. Ils avaient interdiction de pouvoir parler. Ben, où est-ce qu'ils sont allés ? Ils sont allés dans les radios et dans les télévisions d'extrême droite pour effectivement essayer de parler. Puis après, ils ont créé leur propre télévision et leur propre radio et leur propre émission. Je crois qu'il faut qu'on fasse pareil. Puis c'est tout. Je crois que c'est très clair.
Ouais.
À un moment donné,
ouais.
On n'a pas le choix. Je veux dire, et puis honnêtement, droite et gauche. Moi, depuis 1989, depuis la chute du mur de Berlin, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Voilà, ça c'est mon analyse.
Romain trépige dans sa chaise, il n'a pas de micro pour l'instant. On reparlera.
C'est mon analyse et je dirais même pire. Le grand capital préfère utiliser la gauche pour faire passer ses mesures.
Ah oui, bon,
donc
je
dirais que même la droite est moins dangereuse du point de vue de la classe ouvrière que la gauche. Voilà.
Romain, vas-y, prends la parole deux secondes si tu veux
qui
était réagir.
FMI, qui était au FMI ?
Oui, bien sûr. Mais
qui était au GATT ?
Des Français
qui était
en plus
Europe,
depuis.
Qui était à l'Europe ? Des socialistes.
Je suis d'accord.
Français.
Pour les samouraïs. Quand on dit il y a plus de gauche, il y a plus de droite, je pense que ça dépend sur quel plan on se prend. Si on se place sur le plan des partis de gouvernement qui se disent de gauche ou de droite, c'est vrai. Si on se place sur le plan de ce qui nous laisse à penser médiatiquement, c'est sûr. Mais historiquement, concrètement, conceptuellement, il y a quand même des grandes différences. Notamment une à gauche, on pense que le nerf de la guerre, c'est ce qui devrait. Je dis pas que c'est ce qui est, mais c'est ce qui devrait souder tous les gens de gauche, que tous les problèmes viennent d'un partage des richesses, de la façon dont on crée la valeur ajoutée, que la valeur ajoutée doit être prise à la base, c'est-à-dire quand on la crée comme taxe. C'est, par exemple, je vais vous donner un exemple assez frappant. Pour moi, on est obligé à un moment de
rapidement,
choisir.
Rapidement.
Les graphiques comme l'anglais.
Non, c'est simplissime.
Mais c'est la radio, personne ne voit le
graphique. Oui, mais mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, faut faire. Quand on est concrètement, qu'on soit dans un conseil municipal ou qu'on soit à la tête de l'État, il faut faire des choix. Les budgets ne sont pas extensibles. Par exemple, à l'heure actuelle, la moitié des rentrées de l'État, c'est la TVA. l'impôt le plus injuste. En fonction de ça, qu'on se dise de gauche ou de droite, si on augmente la pression fiscale du pays de façon générale par la TVA plutôt que sur la taxe sur la plus-value que font les entreprises, qu'on se dise de gauche ou de droite, on sera de droite si on favorise l'augmentation de la TVA plutôt que les taxes sur les entreprises. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut se dire qu'on n'est pas de gauche ou de droite. Mais il y a un moment où dans les grands choix du pays, parce que les budgets ne sont pas extensibles, il faut faire des choix. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on paye un policier en plus, c'est un discours un peu simpliste et un peu démographique, un peu démago, mais quand on paye quand on rajoute 10 policiers, c'est 10 instits de moins ce qu'on se prive de pouvoir mettre.
Ben, je ne suis pas d'accord, évidemment.
Les budgets n'étant pas extensibles, plus ou moins, c'est des enveloppes budgétaires. Un président, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de disperser un budget national sur différentes enveloppes. Plus ou moins, c'est un peu ça qui déterminera s'il est de gauche ou de droite. Et effectivement, je suis d'accord, ça fait 40 ans qu'on vit dans un système libéral, donc qui favorise plus l'entrepreneuriat, sur des idées qu'on peut discuter. Hein. Le libéralisme, c'est pas, ils sont tous pas... je ne dis pas que les libéraux... Le point qu'on a de divergence aussi, c'est que vous pensez que... Je pense que vous pensez aussi que c'est pas, que les gens qui nous dominent sont mauvais. Moi, je pense qu'ils profitent de cadres. C'est pour ça que le bas contre le haut, moi, ça me suffit pas.
On reviendra. Excuse-moi, je te coupe.
C'est un peu court. Le bas contre le haut, c'est un peu court.
On y reviendra à la fin.
Favoriser le FN.
À la fin de l'émission, on reviendra avec notre invité. Juste avant d'écouter la chronique d'Amanda, j'avais une dernière question sur le petit journal en l'occurrence. Ouais. On avait tous été choqués ici par une publicité qui est parue dans ce journal. Alors peut-être que toi, tu as un peu des explications à nous donner là-dessus, parce que nous, il y avait en gros une pub pour le Front National, on va faire simple, dans un numéro qui est sorti...
Financé par l'Europe,
un peu avant les régionales.
Ce qui est un peu effrayant.
Alors, raconte-nous comment ça est arrivé dans le journal.
C'est arrivé comme un boulet sur la gueule, c'est-à-dire ça a fait mal, hein, forcément. Mmh. Et effectivement, moi j'ai essayé de dire quelque chose, mais ça n'a rien changé, c'est clair. Hein. De toute façon, ça m'étonne pas. Moi, ça m'a pas étonné, outre mesure, hein, connaissant le personnage et connaissant l'histoire de Paga et l'histoire des gens qui avaient derrière, des financements qui avaient derrière. Donc, voilà.
La presse véronaise, elle est mal quand même actuellement. Le Centre Presse, La Dépêche, Midi Libre, c'est le même journal. Le Ruthénois, est en train de changer de propriétaire. Titre personnel, je me posais des questions sur la nouvelle version. On voit quand même le petit journal qui navigue sur des eaux. Je vais rester là. Il y a le nouvel hebdo qui est là, feuille de chou, qui est quand même assez intéressante. À titre personnel, mais c'est vrai que le paysage ruthénois en termes médiatiques, il est...
De toute façon, ce que j'avais écrit dans Presse Business, c'est à l'époque, même si on n'était pas d'accord, il y avait 10 hebdos et 3 quotidiens, et on pouvait jongler. Hein, et puis il y avait France Télévisions, France 3, et puis il y avait 3-4 radios libres, je dirais. Et donc il y avait un paysage audiovisuel de communication qui était jouable, parce qu'on pouvait jouer les uns contre les autres. Aujourd'hui, on peut plus jouer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un parti et il y a une situation de monopole total. Et c'est là où le libéralisme, il est pour la concurrence. Donc la libre concurrence, il devrait casser ça. Et effectivement, il est pour le monopole. Donc à un moment donné, il faut revenir en arrière. Moi, effectivement, j'ai des idées autour de ça. Il faut revenir à la période de la résistance et de la libération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas possible qu'un parti politique qui se présente à des élections ait le monopole sur une région et va être bientôt ministre. Il n'y a qu'en France que ce système existe. Et le système aveyronnais est vachement intéressant parce que c'est le système français. Et c'est pour ça que j'ai écrit Presse Business, histoire critique d'une presse bien française. Je raconte toute l'histoire, comment Hersant est arrivé en Aveyron, comment les résistants ont bâti la presse, comment Hersant est arrivé, comment le groupe Fabre est arrivé, comment le groupe Le Monde est arrivé, comment le groupe Sud-Ouest est arrivé, comment La Dépêche a manœuvré. Parce que là aussi, hein, je pourrais raconter mon histoire, mais l'histoire de mon petit groupe que j'avais monté, comment j'ai été négocié avec La Dépêche. Donc je connais très bien Bernard Maffre, le directeur général du groupe aujourd'hui de Midi Libre. Je connais très bien Baillet, monsieur et madame Baillet, les deux, puisque j'avais négocié avec eux la rentrée de mon petit groupe de magazine à La Dépêche. Mais je le dis très clairement, et j'espère que je ne vais pas avoir encore une mise en examen, mais ce sont des voyous. C'est très clair. Et c'est que du business. Et c'est pas autre chose. Et donc, effectivement, on est comme dirait Séverine Tessier, on est en post-démocratie. La démocratie n'existe pas, c'est pas vrai. C'est un leurre. Et moi je dis, il faut pas oublier que la révolution de 1789 n'a pas été achevée. C'est la bourgeoisie qui a confisqué à un moment donné la révolution démocratique de 1789. Et on en est encore là. C'est pour ça que moi je dis, revenons aux fondamentaux. Revenons à la séparation des pouvoirs. Montesquieu disait, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et il parlait même du pouvoir de la presse. Le pouvoir de la presse doit être un pouvoir complètement autonome et complètement libre. Les journalistes ont une carte de presse. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Ils n'en font rien. Voilà, ils se couchent. Moi je dis, et ça leur fait pas plaisir, c'est pour ça qu'ils m'aiment pas,
que ce sont, ils m'aiment pas trop,
ben, je dis que c'est des petits rapporteurs ou des techniciens de surface. Mais il faut arrêter, il faut faire de l'investigation. On est un contre-pouvoir. On devrait être un contre-pouvoir. Ici, on le voit en plus au niveau local, c'est encore plus grave. Parce qu'au niveau national, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif. Au niveau local, il y a un pouvoir exécutif et législatif qui est le même. Et en plus, il y a des liens avec la justice. Et ensuite, ils tiennent la presse. Mais il n'y a qu'un pouvoir. C'est inimaginable. On n'est plus dans une démocratie. Et je crois qu'il faut se battre là-dessus. Il ne faut pas se battre sur des idéaux qui sont quelquefois dépassés. Aujourd'hui, il faut revenir.
On reviendra sur les idéaux
à la démocratie déjà.
Moi, je les aime bien, les idéaux dépassés.
Donc, on reviendra sur les sujets qu'on vient d'aborder en fin d'émission. Écoutez un petit peu de musique. C'est encore Amanda qui s'est occupée de la programmation.
Vous allez écouter Kieran Ann, Sugar Mama.
Merci.
Il s'enfuit.
nous voilà de retour.
Ça discutait.
Donc restez avec nous, hein, les dernières minutes de l'émission promettent entre Romain et Hugues.
Non, moi j'ai tout dit, j'ai plus rien à dire.
Hors micro, ça compte pas. Bon, on va se détendre un peu. Peut-être, je sais même pas vraiment si c'est un sujet de détente, mais avec Amanda qui va nous parler des questions que l'on pose aux nouvelles mamans.
On est tous et toutes hyper contents. Pour Guillaume et Madame Roquette, devenus nouveaux parents il y a quelques jours.
Ah oui, ça ressemble.
Ouais. Bah oui, tu savais pas. Il est dessus.
Elle est vachement âgée pour Guillaume quand même.
N'étant pas mère, je ne connais pas encore le plaisir de, pendant les mois qui suivent un accouchement, accueillir des questions indiscrètes des autres sur la manière dont j'élève mon nouveau-né. Mais j'ai la confirmation de presque toutes mes copines que ça se passe comme ça. Il paraît qu'on pose souvent les mêmes questions aux nouvelles mères et surtout des questions sur la nutrition du bébé. Selon le forum des parolesdesmamans.com, parmi les questions les plus chiantes qu'on pose sont « Tu le nourris ?» et « Tu comptes l'allaiter longtemps ?» Après, on ouvre le débat sur « Bio ou pas bio ?»« Fait maison ou industriel ?»« Sucré ou salé ?»« Les horaires, les fréquences ?» Bref, encore plus répétitives sont des longs discours qui suivent. Sans attendre que la mère nous réponde, on présente toutes les mêmes théories sur l'alimentation que les parents ont déjà lu ou entendu. On s'excite, on s'énerve, on leur explique comment il faut faire et comment il ne faut pas faire. Comme si la maman ne venait pas de passer 9 mois coincée à la maison, sans bière, sans clope, à préparer la naissance de l'enfant avec papa, dans le meilleur des cas, et à faire les recherches elle-même. Mais quoi donc après? Quand le bébé n'est plus bébé, ses sermons de trottoir disparaissent complètement. J'ai l'impression que c'est comme quand un chaton grandit et devient un vieux matou. La société s'intéresse beaucoup moins à l'alimentation parfaite de l'enfant après ses 3 ans et se laisse guider par les compagnies privées, des grandes marques et les fast-food. Par exemple, malgré les campagnes de lutte contre l'obésité, les OGM, les malbouffes, la France est l'un des rares pays où les ventes des restos McDo ont augmenté. La vente des Happy Meal en France représente 20% des chiffres d'affaires, soit presque 1 milliard d'euros. On dirait que la stratégie de marketing de McDo a bien marché sur les Français, dis donc. Ça a marché d'attirer les enfants d'abord, suivis par leurs parents fatigués et leur portefeuille pleine. Ça a marché de créer des aires de jeu, aussi de trouver une mascotte adaptée aux enfants, de lui faire faire son propre émission de télé, d'animer les fêtes d'anniversaire programmées au resto. Ça a marché d'intégrer les jouets au repas. Saviez-vous que le McDo est le premier distributeur de jouets dans le monde? Saviez-vous, les roquets?
Oui.
Non, ils ne savent pas lire.
Greg, il le savait.
Il faut se poser la question. Dans quelle mesure est-il moral ou éthique de faire les enfants des cibles marketing? Dans la mesure où les enfants sont limités par leur cerveau en plein développement, les adultes ont pour rôle à leur protéger. Une nouvelle étude soutient que les cerveaux des jeunes personnes obèses sont incités à répondre au logo des entreprises de fast-food.
Non, c'est pas vrai. Enfin, moi, j'ai le témoignage.
ça te fait pas baver?
Non, mais les tripous, ça compte comme un fast-food.
Ah.
Les cacahuètes aussi.
Des images des logos s'enclenchent la partie du cerveau qui contrôle le plaisir et l'appétit, comme si la personne regardait une assiette pleine de la nourriture normale. Ces jeunes sont programmés de baver devant une enseigne. Quel sacré réflexe de Pavlov! En plus, ces hamburgers ne décomposent pas. Au States, il y a un homme qui collectionne ses burgers depuis 1989, la chute du mur de Berlin. Ses burgers ne moisissent pas, ils gardent les mêmes aspects visuels qu'au moment de l'achat. La galette de viande transformée trouvée dans la Happy Meal est chargée à fond de sodium, si bien qu'elle est considérée pas une viande, mais une conserve de viande. Son pain est une composition de 27 ingrédients et ne moisit ni ne pourrit pas. En revanche, les déchets alimentaires non transformés se dégradent dans quelques mois. Par exemple, un trognon de pomme prend entre 1 et 5 mois. Une pelure de fruits, 3 à 6 mois. Pourtant, on nous a convaincus que donner un Happy Meal à un enfant fait son petit plaisir de la semaine. Ha ! On a bien bouffé les publicités de McDo si on croit vraiment ça. C'est peut-être la meilleure bouffe qu'ils nous ont jamais proposée d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'on est un peu faux cul quand même d'oser faire des leçons aux nouvelles mamans sur la nutrition de l'enfant quand on fait bouffer 1 milliard d'euros de McDo aux gamins tous les ans. Sans parler d'autres aliments hyper transformés qui se trouvent dans nos placards. Trouvant d'autres sujets de discussion pour ces braves femmes qui viennent de prêter son corps à sa famille pendant 9 mois. Aussi qui viennent de faire passer un objet la taille d'une pastèque par un trou la taille d'un ballon de ping-pong. Voilà. Un objet. Des revendications. Maintenant, on va fêter ça avec une bouteille de la part de CFM pour Guillaume et Madame Roquette.
Non, c'est parce que je suis là.
Non, 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 c'est pas pour toi. Non. Ça aurait pu, mais non. Ouais. Donc, on dit merci à CFM qui nous offre
Du gaillac.
Le gaillac brut du mois
d'Orel. Mettons de champenoise, en fait, c'est ça.
Allez. Voilà. Et on
continue.
Katia ou musique?
Musique, non?
Ouais,
bon, c'est jouer, musique.
C'est quoi le plus intéressant? Musique, allez.
Ouais,
musique,
il n'y a pas de doute. Mais si vous n'avez pas de commentaires.
Si, non, mais
sinon, c'était parfait, en fait.
Non, mais le McDo, non, mais vous n'y allez jamais au McDo?
Non.
J'ai jamais amené un enfant au McDo.
Hier soir.
Si, mais je le dis pas, je mens.
Mais ouais. Moi, j'enlève mon badge du Parti communiste ou la CGT, là. Et
aller au McDo, c'est un peu comme voter socialiste, quoi. Tu le fais des fois, mais tu le dis pas trop.
Voilà. Et après, si tu t'en veux beaucoup, c'est pareil.
Je précise, je m'en fous ce qu'ils font ça, les adultes, hein. C'est les enfants qui ne choisissent pas leur bouffe. Après, c'est vraiment le côté hypocrite qui me saoule.
J'ai essayé d'amener mes neveux au McDo et je le referai plus jamais. Ils ont rien bouffé, ils voulaient juste jouer.
Ouais, ça coûte cher. Ils leur plat.
Obligé de finir leur Happy Meal.
Mais moi, je pense qu'il faut qu'on passe par une étape en fait où on leur fait bouffer McDo tous les jours et le petit plaisir de la semaine, ça sera
les farceaux,
ils n'ont pas le grand dîner, ils n'ont pas
les brocolis du jardin avec le petit oignon du jardin qu'on a coupé. Et là, bam, on inverse la tendance.
Ah, pas con, pas con.
Je sais pas s'il y aura beaucoup de survivants là.
Bon, la prochaine théorie de Katia, ce sera après un petit morceau de musique. C'est Eric Clapton, je crois.
Eric Clapton, Layla.
Avec l'accent. Darling, please lay down.
Moi, président de la République, je suis très très.
Bah, dis ça, on peut le dire.
Ladies and gentlemen, we got it.
Je croirais chez les bolcheviks.
Nous voilà de retour sur CFM 107.9, les
Rouges.
Saint-Guillaume avec Greg. Avec toujours notre invité Grobert. Romain et Amanda sont autour de la table, mais c'est au tour de Katia de nous parler de délation.
Voilà, parce que moi j'ai toujours envie d'essayer de mettre un lien d'un côté des valeurs ou des antivaleurs, les trucs désuets dont on parlait tout à l'heure, et de l'autre l'actualité ou le quotidien. Comparer des faits avec les valeurs ou les antivaleurs, que souvent on ne fait qu'afficher, pas plus, comme un sésame dans une discussion bien pensante ou devant une caméra. Vous savez, comme dans le conte, quand le loup se teint la patte en blanc pour se faire passer pour la maman des petits chevreaux. Vous connaissez ce conte ?
Oui, tout à fait.
Et du coup, les petits chevreaux, ils ouvrent la porte au loup. Ils sont trop cons, ces petits chevreaux. Ils se sont fait niquer par le loup, j'en ris encore. Alors aujourd'hui, un truc cacaburk qui pue bien, la délation. Bouh ! La délation,
Oh, mon grand-père, il a gagné beaucoup d'argent avec ça. Hein.
Alors pourquoi la délation c'est pas bien ? Parce qu'on a tous les tristes souvenirs des périodes les plus sombres de notre histoire et on est à peu près tous d'accord, à peu près, que d'avoir dénoncé des juifs pendant la guerre tout en gardant secret les coins d'un champignon, c'était sacrément criminel. Et que ça avait été rendu possible comment ? Hein ? Parce qu'on avait poussé à la délation. Donc si on est à peu près tous d'accord là-dessus sur des faits qui remontent à une centaine d'années, par contre le cerveau il fait souvent... pas trop bien le lien avec aujourd'hui, avec l'actualité. Il y a comme une espèce de blocage spatio-temporel, un fusible qui a pété, et plus aucun électricien pour venir remplacer la pièce. Alors je fais une parenthèse. Quand ton enfant vient dire « Eh ben Paul, il a mangé son goûter alors que c'est pas l'heure », sérieusement, il y a combien d'adultes qui, avant de se précipiter pour vociférer sur Paul, vont expliquer au premier qui vient de balancer que c'était ni nécessaire ni très joli ? Et qu'en fait, ce qui est pas joli, c'est qu'au fond, t'étais jaloux de Paul qui mangeait son chocolat et que par jalousie, t'es venu chercher à le faire gronder. Si Paul, il te menace, il te violente, il te vole, il te fait à toi ou à quelqu'un d'autre des trucs vraiment méchants, ok, viens en parler parce que là, c'est chercher de l'aide. Mais autrement, balancer quand il n'y a aucun danger pour personne, c'est souvent que de la jalousie. Donc, c'est pas joli et ça va pas t'amener que des amis. Ça, c'était un exemple de court-circuit spatio-temporel du quotidien. Court-circuit politique maintenant.
On dirait une estète sociale.
Presque.
Il y a des concepts, ça, Rocky Rouge, attention.
Et ouais, c'est les valeurs désuètes. Le 26 janvier, l'Assemblée nationale vient de voter définitivement la loi sur la réforme du droit des étrangers, se targuant d'avoir considérablement amélioré leur sort administratif. Bon, à part deux, trois trucs, dans le gros, c'est faux. La loi vient peut-être améliorer la condition de certains étrangers, ce version immigration choisie, pas vraiment ce version détresse humaine. Bref, ça serait un autre sujet. Revenons à nos moutons, à nos chevreaux, enfin bref, à la délation. Mmh. Et bien cette loi, elle inscrit la délation comme obligatoire. Banco, bravo, explosion spatio-temporelle, la délation contre les étrangers, nickel Michel, ça c'est beau. Le texte prévoit que sur demande de l'autorité administrative, la préfecture, tout un tas de gens devront répondre, et par exemple, les écoles, les centres de santé, les universités, Pôle emploi, tous ensemble pour fournir tous les renseignements
depuis
nécessaires.
Depuis quand pour la plante on a une réponse à...
C'est uniquement à la préfecture.
Ah d'accord.
Donc tous ensemble pour fournir tous les renseignements nécessaires au contrôle de la vie des étrangers, des conditions d'accord de leur régularisation ou pour annuler leur régularisation. Parce que c'est bien connu, les étrangers sont des fraudeurs, des menteurs, parce que c'est dans leur gène d'étrangers. C'est pas moi qui le dis, c'est la gauche au pouvoir. Obligation.
Je confirme, hein. C'est dans mes gènes.
Ouais, mais toi, t'es pas une étrangère pareille.
Je m'appelle même pas Amanda. Non.
Toi, t'es l'immigration choisie, Amanda. Mm. Obligation sur demande de délationner donc, sous peine d'être passible de 7 500 € d'amende. Sarkozy avait déjà semé des graines, et alors là, la gauche fait pareil, en faisant encore des assimilations.
C'est quoi,
cette
la gauche
fois-ci la gauche au pouvoir, pardon.
Ouais, merci.
Ouais,
bon réflexe.
Merci. C'est la gauche au pouvoir. Donc en faisant encore des assimilations, cette fois-ci délinquants étrangers. Avant c'était délinquants personnes en difficulté. Non, on y va franco, hein, c'est délinquants étrangers. Et donc la gauche se fait terriblement mieux. Enfin mieux,
le
façon
PS.
De parler. Pardon, la gauche au pouvoir. Oh, entre autres parce qu'elle prévoit la sanction. Et parce qu'elle a la finesse de cibler très précis, vraiment, les étrangers. merveilleux. Le PS qui balaye d'un revers de main l'histoire, qui remet en place les conditions des agissements humains les plus vils, qui va plus loin que les textes les plus répressifs de la droite, qui met en place un outil de délation obligatoire et discriminatoire, et qui se clame, se prône, se fanfaronne de gauche, socialiste, tu parles de vrais loups, oui, de vrais loups face à de pauvres petits chevreaux bien naïfs. Mais les socialistes devraient se rappeler la fin de l'histoire du loup et des sept chevreaux. Parce qu'à la fin de l'histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le loup, il se noie.
Et moi, je voudrais faire une délation d'un étranger.
Tu sais quoi ton nom?
Ouais, non, mais il y a monsieur Valls, il arrive en France et puis il s'est dit socialiste. En fait, il ne l'est pas du tout.
Oh, le menteur.
Et quand il y a du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, effectivement, on parle du secret. On est obligé de garder le secret. Et là, il n'y a pas de délation.
Non, et là on le remet en cause, le secret. C'est une vraie aussi remise en cause du secret professionnel de tout un tas de corps de métier.
Ouais, pour revenir un petit peu sur ce que tu dis, donc les hôpitaux donc sont concernés, enfin devront. Alors c'est à la demande de la préfecture, ils demanderont aux hôpitaux, aux opérateurs de téléphone, à EDF, GDF, etc., aux écoles, de répondre à des informations données. Je sais qu'il y a des pétitions.
Un exemple concrètement, parce que
je. En gros. Monsieur Machin a sa carte de séjour, il a son titre de séjour en bonne et due forme délivré par l'autorité préfectorale.
Qu'il avait bien du mal à obtenir et il a déjà dû montrer sa crème en page blanche.
La préfecture qui aurait un petit doute sur la véracité d'une information peut appeler l'hôpital général de Rodez en disant ce monsieur, on sait que vous l'avez soigné, c'est facile à savoir vu que ça peut être pour raison médicale, il l'a dit peut-être, vous l'avez reçu, est-ce que vous l'avez déjà reçu avec sa femme? Donc là, ils seront tenus de répondre. Si madame est venue un moment sans papier, qu'elle est repartie dans son pays d'origine, en l'occurrence, on peut dire, la préfecture peut convoquer ce monsieur en disant, monsieur, vous nous avez pas dit que votre femme était rentrée illégalement sur le territoire national et rendez-nous votre carte de séjour et vous vous cassez.
Mais ça va plus loin, je pense aussi, c'est que le monsieur qui a été régularisé pour raison de santé, on peut demander à l'hôpital, ce monsieur, il vient subir des soins dont il a besoin et qui sont pas disponibles dans son pays, mais il vient pour de vrai, il vient à ses rendez-vous, il a des rendez-vous tous les combien et vous lui donnez quoi comme soins, c'est vraiment nécessaire les soins que vous lui donnez. Enfin, c'est toute la remise en cause du secret professionnel, du secret médical et de la sanctuarisation de certains lieux comme l'école, comme les hôpitaux, comme où normalement on ne mélange pas en fait des enjeux administratifs et des enjeux de soins, de santé, de scolarité.
Il y a justement donc une mobilisation faite notamment par il y a le JITSI, il y a la Ligue des droits de l'homme, Médecins du Monde, l'Association nationale des assistants sociaux, la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale qui se mobilise par rapport à ça. C'est vrai que c'est quand même très scandaleux. J'ose espérer encore de la nature humaine et notamment des travailleurs sociaux, des professeurs, des enseignants, etc. pour qu'il y ait un blocage des médecins aussi. Parce qu'il y a quand même encore un peu de ça. Mais
moi, j'y crois pas du tout.
Il est optimiste.
Quand, dans les années 2000, Sarkozy a commencé à insérer la question de la délation versant travailleurs sociaux pour remplir des fichiers. Il y a eu des énormes mobilisations de travailleurs sociaux. Les textes sont passés et depuis 10 ans, c'est complètement rentré dans les mœurs. On remplit des statistiques nominatives, on fait tout un tas de choses. Là, il y a en plus une sanction pénale. On croit vraiment que les gens ils vont refuser à donner les informations sous peine d'une sanction pénale? Moi, j'espère.
Je demanderai à Grosbert le nom de bon avocat.
Il y a Réseau Éducation Sans Frontières aussi qui essaie d'empêcher les flics de venir chercher les gamins à la sortie des écoles parce que ça, c'est une pratique assez courante. Ça. C'est pratique, quoi. Dès qu'ils sortent de l'école, pour les ramener.
Avant de laisser Romain et Hugues débattre pendant quelques minutes de politique de gauche, etc., on va, Amanda, une petite information.
Je vais juste vous faire la petite publicité militante de la semaine.
Voilà, classique, sinon ce serait pas les routines.
Vous êtes seul, vous ne savez pas quoi faire ce Saint-Valentin. Je vous invite à découvrir le festival de films des images homo qui a lieu du 9 au 23 février. Avec 3 projections sur Rodez, une projection à Réau-Pérou, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet d'Alerte, www.alerte-aveyron.fr. Voilà.
Merci Amanda. Romain, je te laisse la parole, il reste à peu près 5 minutes, donc écoutez-vous, échangez, oui. Voilà, je te laisse mener le débat à la fin.
Oui, donc moi, ce que je pense qu'on est, on est d'accord sur beaucoup de choses avec Monsieur Robert, mais c'est vrai que il y a juste une chose, je pense, avec laquelle j'ai un peu plus de mal, c'est le côté neutre, en fait, le côté de la neutralité citoyenne, le côté de la
certainement pas.
C'est vrai. Explique.
Non, mais c'est vrai que pendant les municipales de 2014, c'est vrai qu'on a essayé à Rodez de faire.
On, le Front de Gauche, tu veux dire?
Nous deux pour l'instant, je vais expliciter après, mais on a essayé de faire une liste commune entre donc des citoyens.
Entre le collectif citoyen.
Entre le collectif citoyen et le Front de Gauche. Et c'est-à-dire que c'est vrai que pour moi, ça a été, je l'ai vécu vraiment comme un échec, mais pas tant, quoi, parce que on était d'accord sur ce qu'il fallait les faire à peu près et là où on n'a pas réussi à être d'accord c'est sur des trucs vraiment, est-ce qu'on met des logos en bas quoi, et je dis pas que c'est la faute des citoyens, je pense que les torts sont partagés, attention.
Moi je vais te répondre parce que je suis d'autant plus libre que moi j'étais je fais partie des opposants, c'est-à-dire qu'il y a la moitié du collectif citoyen qui était pour l'alliance avec le Front de Gauche. Et moi, je faisais partie des gens donc qui étaient contre l'alliance avec le Front de Gauche. Et je vais te dire pourquoi. J'ai envie de dire pour une seule raison. C'est qu'à un moment donné, le Front de Gauche nous a demandé « Donnez-nous un certificat, quasiment, ça a été, que vous êtes de gauche. » Moi, je dis c'est des actes. C'est comme pour l'amour. Est-ce que tu aimes quelqu'un? C'est les preuves d'amour. Voilà. Donc à un moment donné, pour moi, c'est ça qui est important. Nous, on a des valeurs. Moi, je veux te dire, j'ai milité à l'extrême gauche, j'ai été dans des comités de soldats, j'ai fait de la prison, je me suis battu et j'ai vu quand il y avait un type là d'ailleurs qui s'était suicidé dans notre caserne, et j'ai vu qui s'était battu pour justement revendiquer par rapport à cette histoire-là. Mais c'était pas des mecs de gauche. C'était surtout pas des mecs d'extrême gauche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre les valeurs et les actes. Ensuite, aujourd'hui, je dis que le Front de Gauche fait le plus grand mal à...
En termes de communication, je peux comprendre.
Fait le plus grand mal aux gens. Voilà. C'est-à-dire que...
Il reste 2 minutes, hein.
Effectivement, moi, je prends l'histoire de Guillaume Sériès. Je veux dire, je sais qu'il avait déjà négocié avec Christian Tessèdre, sa place pour les municipales. Et être là-dedans, nous étions les seuls à dire, et ça c'était important, les seuls à dire, on n'a pas les 10%, on n'appellera pas à voter pour qui que ce soit, et si on a les 10%, on se maintient et on négociera rien.
Hugues, excuse-moi. Voilà. Attends,
et ça c'est vraiment important.
Je vais prendre la parole très rapidement. Je pense que le problème dans l'analyse, c'est que il y a un problème, excusez-moi, c'est pas une insulte, générationnelle. Tu parles des expériences passées, etc., oui. qui ont une valeur, c'est quelque chose qui est utile. Le constat est que aujourd'hui une certaine il y a plus de jeunesse engagée au Front de Gauche que dans le collectif citoyen. Je pense que c'est un problème. Vous avez une histoire, etc., qui fait les choses. Tu parles de Podemos. Podemos, récemment, on a vu les photos des députés Podemos.
C'est des jeunes.
Ouais. Guillaume Sériès a peut-être eu des aptitudes.
Il a une jeunesse de
l'âge, peut-être pas de la pratique politique. Et je pense que tant qu'on n'arrivera pas à dépasser ça, sera un problème important, et que le visa de gauche ou pas est quand même un truc qui est anecdotique, et qu'il faut mettre des jeunes là-dedans pour réussir à avancer.
Non, mais moi, c'est juste que je vois pas qu'on puisse dire à des gens, on prétend gouverner. Je veux dire, je suis sûr, en plus, que le Front de Gauche et les Aveyron citoyennes, on ferait un projet, mettons, relocalisé, essayer de favoriser par la fiscalité la relocalisation de la production d'énergie. On arriverait à tomber sur les projets, on serait d'accord. Ce que je veux dire, c'est pour les affaires de gestion courante. Mettons, en 2012, des citoyens seraient arrivés au pouvoir. Je veux dire, là, on a la crise libyenne qui fait qu'on a des millions on en aurait eu des millions de gens qui seraient arrivés en Europe. C'est-à-dire que il faut savoir quelle attitude va être par rapport à eux. Quelqu'un qui serait de gauche, même qu'il y ait 700 000 personnes qui viennent, ça veut dire que si on ne se définit pas un minimum, je dis pas qu'il faut adopter toutes les thèses marxistes pour avoir son label de gauche. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, savoir un minimum de quel côté on se passe de l'humain. Est-ce qu'on est pour la coopération ou la compétition? Pour moi, ça se résume à ça. Est-ce qu'on est pour la compétition ou la coopération?
On peut dire des trucs qui seront coupés si jamais c'est trop long, en fait, parce que c'est peut-être pas intéressant. Moi, je suis ni encartée Front de Gauche, ni Mouvement Citoyen, ni rien du tout. Par contre, j'ai une idéologie de gauche et je tiens à voter quelque chose qui ressemble à une idéologie de gauche. Et je suis absolument pas séduite par les gens qui me présentent pas quelle est leur référence, en fait. Je comprends que vous avez, que c'est comme l'amour et qu'il y a des valeurs et voilà, je comprends très bien que vous avez fait des choses. Mais moi, je vous connais pas. Donc je connais pas vos actes, je connais pas ce que vous avez fait, je connais pas votre parcours. Quand vous vous présentez, j'ai quand même besoin que vous me disiez d'où vous parlez.
C'est la fin au niveau du timing.
Mais
on va continuer.
On réinvitera peut-être Hugues pour finir le débat.
Je reviendrai peut-être par là.
Juste vraiment une phrase. Moi,
l'inconvénient. C'est pas vous qui votez pour vous. C'est les autres. Vous espérez qu'il y ait de nouvelles personnes qui votent pour vous.
Un gros inconvénient que je vois surtout la neutralité, c'est qu'à chaque fois qu'on dépolitise, c'est le libéralisme qui gagne.
On dépolitise. Pas.
Toutes les... non, ça dépolitise.
Bon, allez, on conclut, on continue un off et
on vous embrasse, on vous dit à
félicitations à Guillaume et Madame Roquette.
Et peut-être seront-ils là pour vous raconter tout ça la prochaine fois.
Bamboléilo, Bamboléila.
Allez, ciao.
Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
J'essaie d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Say what? Oh, no.
Les Roquets Rouges sur CFM.